m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Ils ont tous les deux la passion des écrivains. Elle l'a partagée dans le monde des livres, au magazine Lire ou sur la radio RCJ, mais aussi dans ses livres sur Marguerite Yourcenar, Carson McCullers ou Philip Roth. Lui, dans ses essais, ses chroniques, ses monographies d'artistes, ses entretiens aussi, comme dans ce livre qu'ils publient tous les deux chez Bayard, Une conversation infinie. Elle, c'est Josiane Savigno qui nous rejoindra en seconde partie d'émission. Lui, c'est Philippe Solers qui publie un court roman, un livre érudit, comme toujours, avec Shakespeare comme compagnon de route, mais dans lequel on croise aussi Nietzsche, Stendhal, Heidegger, Proust, Rimbaud, Hölderlin, Freud, Joyce, Gide, Breton, Hemingway, Melville, Céline, et j'en oublie certainement. Le nouveau de Philippe Solers, c'est paru chez Gallimard, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Philippe Solers.
Bonjour.
J'ai toujours été fasciné par les quatrièmes de couverture de vos romans. Je suis allé retrouver le premier roman de vous que j'ai lu, qui s'appelle Le cœur absolu. Et sur la dernière page, donc sur la quatrième de couverture, je vais pas tout lire, mais c'est un peu la même façon, finalement, hein, de construire la quatrième de couverture. Le cœur absolu est une société secrète fondée vers la fin du XXe siècle à Venise. Ses membres, S, écrivain, scénariste, spécialiste d'Homère et Dante, Liv, 27 ans, comédienne, Sigrid, son amie, etc., etc. Un petit peu plus loin, une de ses figures légendaires, Casanova, ses lieux d'action, Paris, une île en été, une Italie dérobée, etc., etc. Et là, on a à peu près la même construction sur la quatrième de couverture du nouveau. C'est important, cette quatrième de couverture? C'est la façon dont beaucoup de lecteurs entrent dans le livre?
C'est une déclaration d'intention très importante, surtout pour ce livre-ci, où vous avez commencé par dire que c'était très érudit, mais là, ce qui est dit d'une façon assez soulignée, c'est qu'il s'agit d'un roman.
Oui.
Et alors là, vous avez des personnages, vous avez dit que Shakespeare intervenait, bien sûr, mais les personnages sont, c'est la reprise de mon roman familial, avec en l'emmenant très au large, hein, parce que il y a un arrière-grand-père navigateur, vous voyez qu'il est né en 1850 et qu'il est mort en 1930. Il y a sa femme irlandaise, et pourquoi l'Irlande travaille, qui est née en 1854 et qui est morte en 1936. Et puis vous avez un escribeur qui s'appelle Louis, 1870-1956, et enfin Léna, que j'appelle la magicienne, et qui est née en 1922 et morte en 2007.
Alors justement, voilà. dans les deux cas, vous présentez comme ça les personnages de façon extrêmement succincte, les listes,
oui,
c'est
mais
ça
alors
finalement qui unit les deux quatrièmes de couverture des deux romans.
Oui, ben alors là, dans ce roman-là, tout est inventé ou peut-être transposé d'une façon.
Bon, celui-là, c'est le cœur absolu.
Voilà. Tandis que là, il s'agit bien de mon roman familial.
Voilà. Alors justement, ce livre est un roman. Hein, c'est indiqué sur la quatrième de couverture. C'est indiqué sur la première page.
Et non seulement un
aussi.
Roman, mais un roman familial qui rejoint l'histoire.
Voilà.
C'est, ça. C'est à la fois un roman historique et un roman familial.
Mais pourquoi fallait-il préciser ce livre est un roman? Est-ce que c'était pas si évident?
Oui,
cela.
Mais parce qu'on dit toujours que j'écris pas de vrais romans.
Ah, bah voilà.
Patati et patata.
Alors, je suis obligé de vous poser la question, Philippe Solers. Pour vous, c'est quoi un vrai roman?
Un vrai roman, pour moi, dans l'époque où nous sommes, qui est une sorte de dévastation générale, c'est une sorte d'arche de Noé, si vous préférez, où sont stockés pour un monde futur qui peut-être n'existera pas, tout ce qui peut se rassembler d'essentiel sur des singularités qui deviennent elles-mêmes des personnages de romans. Autrement dit, les vrais personnages de romans actuels, c'est pas du tout ce qu'on va vous raconter sur la société, l'actualité sociale, etc., mais ce sont les personnages très très implantés dans le temps et dans l'histoire.
Et notamment les écrivains.
Et les écrivains, mais pas seulement, ça peut être aussi les peintres, des musiciens, telle ou telle personnalité singulière. Alors, comme j'ai eu dans ma famille des gens très singuliers, je pense qu'ils méritaient de transiter vers une sorte de gloire.
Alors, de transiter, c'est intéressant parce que vous utilisez effectivement un mot qui nous ramène au voyage et on se dit en vous lisant que le roman, vous parliez d'Arche tout à l'heure, serait une sorte de navigation, une sorte de croisière, une forme de promenade. Philippe Solers?
Promenade, non, parce que promenade, c'est plutôt terrestre que maritime. Et je dois vous dire que la plupart des Français, enfin, ils sont du terroir, vous comprenez? Ils sont sur Terre, ce sont des terrestres. Et alors, ça pèse beaucoup sur l'imaginaire, enfin, d'être lié à la Terre. Là, on est constamment au large. Donc, passer par l'océan avec un navigateur au long cours qui fait des trajets... j'étais en train de... quand j'écrivais ce livre, j'étais en train de lire Melville, ça va de soi, mais surtout Conrad. Alors, j'imaginais cet arrière-grand-père, au fond, comme une sorte de navigateur qui va de Londres à New York, en passant par Singapour, ben voilà, vous voyez. Donc, ça fait une vision de l'histoire qui est très différente selon que vous la prenez par la mer, par l'océan, ou par le terrestre. La France est extraordinairement hexagonale et terrestre, peu maritime, parce que les grandes nations maritimes, comme vous savez, c'est les Pays-Bas, c'est l'Angleterre, bien entendu, d'où Shakespeare, par exemple. Voilà. C'est la nation maritime par excellence. Et les Français sont très terre à terre, si j'ose dire.
Vous voilà. Le regrettez?
Ben, ça pèse. Ils sont parfois un peu lourds,
voilà.
Comme ces temps-ci, par exemple.
Mais le voyage que vous nous proposez à travers le nouveau, il est au contraire extrêmement léger. Et au fil des mots, comme au fil de l'eau, le lecteur se laisse un peu porter par le vent. D'ailleurs, c'est par le vol d'une mouette qu'il entre dans le livre. Nous sommes à la page 11.
La mouette fonce droit sur moi, s'écarte au dernier moment et passe au-dessus de ma tête. C'est la première fois que je vois une mouette se conduire ainsi. D'habitude, elles volent ensemble, un peu plus loin, surgissant comme des fusées qui explosent à droite ou à gauche. Sinon, rien de particulier. Ciel gris-blanc, brise d'ouest légère. Je sais pourtant qu'un mouvement de fond a eu lieu, que quelque chose s'est dit et continue à vouloir se dire. D'où venait cette mouette spéciale? Aucune agressivité, juste un signal. En voilà une dizaine maintenant, de droite à gauche. Elles écrivent leur passage, le paysage ne le retient pas. On a l'impression qu'il a un mot, un seul mot, sur le bout de la langue. Si vous pensez qu'un paysage n'a pas de langue, c'est que vous n'avez pas su l'écouter. Il en a une, surtout près de l'océan ou bien en bateau. Les voiles savent ça, la connaissance des vents aussi. Pas besoin de traduction, c'est tangible. À propos de bateau, la barque qui servait à mon grand-père, Louis, pour rejoindre son voilier, est longtemps restée, forme blanche, au fond du jardin. Elle a fini par pourrir, et son nom, gravé à l'arrière, n'a plus été lisible, sauf quelques lettres. Le bateau s'appelait Le Nouveau. La barque était son annexe, dans laquelle j'ai beaucoup ramé autrefois, bien après que le bateau eût été vendu. Dans un coin d'herbe, voici ce qui parle comme message. Non plus Le Nouveau, mais Le No. Le bateau n'était lui-même qu'un bateau de secours, entreposé sur un grand trois-mâts au long cours, commandé par Henri, mon arrière-grand-père maternel. Sa femme, dont j'ai une vieille photo, s'appelait Edna et était irlandaise. Ce curieux couple a beaucoup voyagé, et je pense que le nom, Nouveau, a dû être inspiré à ce marin par le New américain, New York ou la Nouvelle-Orléans peut-être. Je ne crois pas à la visite des morts, mais je suis forcé d'y penser après ce vol singulier de mouettes. Henri, Edna, ou tout simplement Louis, qui est venu très souvent ici pour pêcher et tirer le canard, ici, dans cet endroit hyper protégé, choisi au coup d'œil par le grand marin de la famille. Henri se balade un jour en bateau côtier, la marée est haute, il voit l'endroit, les digues, les points d'amarrage possibles, il jette les dés, c'est là. Il s'agira de préserver l'esprit d'aventure et de découverte, et ensuite le monde ancien pour le rendre d'autant plus nouveau. Pour les séances en mer, le nouveau petit format traînant derrière lui sa barque fera l'affaire. Ancrage à 100 mètres, on part très tôt le matin avec la marée, rentrer le soir avec le retour de l'eau. Louis a prolongé cette tradition qui se retrouve avec moi dans l'encre bleue, le matin et en fin d'après-midi face au large. Les mouettes recommencent leur balai fou, elles crient dans le ciel d'orage. Je pense à Edna, ma belle irlandaise. Sa photo est là, sur la cheminée, elle a l'air gaie.
Et voilà comment on passe de l'encre avec un A à l'encre avec un E. Philippe Soler, c'est une encre sortie de votre stylo que vous utilisez, écrivez-vous, comme le fleuret du grand-père Louis, hein, un champion d'escrime devenu accro au jeu. L'écrivain que vous êtes serait-il un escrimeur, Philippe Soler?
Je crois que c'est génétiquement transmis, d'une façon ou d'une autre. Ce grand-père était un champion d'escrime, il est répertorié comme tel, il a affronter l'état d'adversaire, de façon mondiale, enfin européenne à l'époque. Voilà. Et ce qui est curieux, c'est qu'il a choisi une de ses filles, c'est ma mère, c'est mon grand-père maternel, une de ses filles pour faire de l'escrime, ce qui était très très étrange pour l'époque. Il a voulu transmettre quelque chose, il n'avait pas de fils, il n'avait que des filles, il a trouvé que la dernière, c'est ma mère, était peut-être un peu plus dégourdie que les deux autres, ou qu'elle avait un tempérament assez combatif.
Oui.
Bref, elle a fait de l'escrime, et ça a été une des premières femmes d'ailleurs, ce qui faisait sensation à l'époque, à conduire une voiture dans les rues de Bordeaux, voilà. Donc, il y a quelque chose qui se transmet.
Et vous avez troqué le fleuret pour un stylo ?
Et moi, je me sens, avec mon stylo, je me sens... il y a une transmission génétique. De même que je suis très attentif au vent et au changement de vent, et que ça me vient très probablement de cette longue, longue, longue transmission de cet arrière-grand-père qui devait faire attention au moindre, à la moindre chose qui pouvait se passer à voile. Hein. C'est-à-dire, je peux vous dire que le Nordais, comme on dit chez nous, le Nord-Est, c'est très bon le Nord-Est. Le Nord-Ouest, ça peut être pas mal non plus. Mais en tout cas, il y a un vent à éviter, si vous voulez, du mauvais temps, vous l'avez. C'est le sud-est, par exemple. Bon. Et donc, j'ai cet instinct qui consiste à me référer au vent. Donc, et pas seulement au vent, c'est-à-dire la façon de tirer des bords, de faire. J'ai fait beaucoup de voiles étant jeune, beaucoup, beaucoup. Et ça me passionnait parce que ça veut dire qu'on sait naviguer. Donc, naviguer, ça veut dire qu'on peut naviguer en se référant tout le temps à l'océan comme point, et non pas à tel ou tel terroir, ou tel clocher, ou tel champ, etc., ou à tel ou tel mairie, à tel ou tel Corrèze, pour ne pas parler de l'Ardèche ou de la Lozère, pays sinistre. Il est français de...
Vous n'êtes pas comme Denis Tillinac, vous, hein. On sent que vous appartenez
pas
au même monde.
Hein. Denis Tillinac est absolument charmant, mais on peut le prendre en effet comme symbole de cet enracinement corrézien. Sa ville est, si je me trompe, est Tulle. Il a été tout à fait chiracien, et Chirac à Tulle a dit « je vote pour François Hollande », qui était lui-même de Tulle. Vous voyez, tout ça est très très ancien et un peu moisi, comme j'ai dit autrefois.
Ah, la France moisie, vous l'avez dit en 1999, je crois, ça avait fait...
Il y avait un temps,
polémique ça... déjà
oui,
à l'époque.
C'est ça.
Elle a changé la France, elle est toujours moisie, Philippe
Soler. Non, elle est bien pire aujourd'hui, elle est liquéfiée. J'essaye de remplacer maintenant le mot moisie par le mot liquéfiée. Elle est en miettes, c'est un pays qui est en effet tout à fait à la dérive et ruiné au fond spirituellement.
Et c'est ce que révèle un mouvement comme celui des Gilets jaunes ? Quel regard est-ce que vous portez sur cette mobilisation ?
Ce que ça révèle, c'est une misère qui tient absolument à se manifester, qui était caché sous le tapis, et le tapis était moisi, vous arrachez le tapis, et brusquement, vous avez des tas de gilets jaunes.
Et qui a arraché le tapis ?
Dont je respecte le temps. Et le temps, vous étiez dans un ancien monde, sans vous rendre compte que cet ancien monde était en train de pourrir sur place, et vous avez tout à coup cette révélation. Mais l'ancien monde, l'ancien temps, tout ça a été balayé, et est en train d'être balayé. C'est pour ça que je propose aux lecteurs, en général, de prendre le large, et de voir de plus loin tout ça.
Mais vous proposez justement aux lecteurs, Philippe Soler, c'est pourtant, on a l'impression que dans cette crise des gilets jaunes, les intellectuels se montrent extrêmement prudents. Certains diront peut-être timorés. Est-ce que ce n'est pas aussi leur rôle de proposer précisément, sinon un nouveau chemin, du moins des pistes d'ouverture pour sortir de cette crise ?
Monsieur, oui, vous avez raison, mais je ne suis justement pas un intellectuel. Je suis un écrivain qui a d'autres façon de s'exprimer et de contacter quelque chose de plus intime chez les gens. Donc j'évite de dire « nous », j'hésite de faire des discours généraux, je n'ai rien à proposer à des ensembles humains que je voudrais conduire vers un avenir radieux. Tout ça, excusez-moi, me fait rire, et parfois les fous rires complets. Je vois les candidats aux élections européennes, etc. Enfin bon, tout ça est complètement ridicule. Vous êtes dans un spectacle très 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 ancien, vous avez des commentateurs scotchés sur ce spectacle très ancien qui sont obligés de faire du remplissage, bon, avec un discours politique qui a complètement explosé. Donc tout est en crise. Il faut avoir le sentiment urgent que dans cette crise, c'est pas la poudre de perlimpinpin du prochain candidat qui peut être beau, pourquoi pas.
Et, voilà, clin d'œil à Emmanuel Macron qui avait beaucoup utilisé cette expression.
Oui, c'est ça. Oui, mais lui-même est un perlimpinpin qui se plaint du perlimpinpin. Donc vous voyez, tout ça est en boucle. Et donc, voilà. Non, il faut aller à l'essentiel, parce qu'il y a vraiment une urgence, d'ailleurs.
Mais c'est quoi l'essentiel?
L'essentiel, c'est de savoir vous mettre devant le néant, la négation, le no qui reste. Hein, le no.
Le donc, no au début du nouveau.
Voilà, c'est ça. Donc, vous vous mettez en état d'urgence, en quoi vous comprenez pas grand-chose, vous êtes dans l'espace-temps, vous êtes obligé d'être très très concentré, sans quoi vous n'avez rien à dire d'essentiel, enfin d'urgence, c'est médical. Moi, je prescris un antidote puissant par rapport à la dévastation générale.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Philippe Solers qui publie Le Nouveau chez Gallimard. Le Nouveau, alors ce n'est pas seulement une embarcation, Philippe Solers, c'est aussi le nom de votre théâtre, un théâtre spécial hein, que vous avez fondé, dites-vous, un théâtre sans salle, ni acteur, ni public, un théâtre du silence aussi, dans lequel vous vous glissez dans la peau des héros shakespeariens. Quel est le héros auquel vous vous identifiez le plus aujourd'hui, Philippe Solers, le héros de Shakespeare?
Je m'attendais pas du tout à ce que Shakespeare prenne cette importance. Je me suis d'abord demandé pourquoi Freud, toute sa vie, s'est demandé qui pouvait être ce Shakespeare. Nous sortons. Il ne pouvait pas admettre que c'était un comédien qui avait raflé la mise tragique, comique, les sonnets, l'amour et tout. En fait, c'est... Donc ça m'a intéressé de savoir pourquoi Freud avait cette espèce de curiosité obsédée. Hein, qui il en discutait jusqu'à 2h du matin. Hein, il avait son candidat aristocratique. Voilà. Alors ça m'a conduit à regarder Shakespeare, c'est-à-dire à vraiment à prendre l'édition bilingue qui heureusement est trouvable aujourd'hui en Pléiade, etc. C'est très bien traduit. Et surtout, ce qui m'amuse, c'est de voir les anciennes traductions. Et c'est-à-dire pourquoi les Français sont si allergiques à Shakespeare. Pourquoi les Anglais comprennent tout de suite que Shakespeare est tissé d'allusions très crues, très sexuelles.
Et donc, on y revient toujours.
Quand vous avez, en effet, quand vous avez, voilà pour Freud, mais enfin Freud n'était pas familier à ce point de l'anglais. Cela dit, quand vous voyez les traductions, hélas, d'André Gide ou d'un poète certes estimable, enfin, comme Yves Bonnefoy, je me moque d'eux avec raison, je crois, parce que ils font des périphrases pour éviter l'essentiel, et l'essentiel est carrément argotique et sexuel.
Mais alors, Shakespeare est votre invité permanent, c'est ainsi que vous le présentez.
On ne s'en lasse pas.
C'est vous qui l'avez invité ou c'est lui qui s'est invité?
Il s'est invité parce qu'il avait personne avec qui parler, je suppose. Et donc, et tout à coup, il est rentré et il a commencé à vouloir s'exprimer sur les vraies raisons de l'assassinat de Hamlet.
Oui, parce que vous posez beaucoup de questions, effectivement, dans le livre, Philippe Solers. Hein. Oui. Pourquoi le Danemark, les raisons de l'assassinat d'Hamlet, pourquoi est-ce que l'amiral Nelson s'appelle Horatio comme le meilleur ami d'Hamlet dans la pièce? Vous vous demandez aussi, et là on dérive légèrement, mais on est sur un bateau, donc c'est normal de
voilà,
dériver.
Merci.
Vous demandez même où sont les tombes d'Adam et Ève?
Oui,
vous les avez trouvés?
C'est amusant. Elles sont dans l'imaginaire de tous les gens qui ont entendu parler de cette affaire biblique sous laquelle vous êtes obligé de vivre parce que vous croyez ou pas. Enfin, vous avez tendance à croire que vous êtes issu d'un péché qui, moi, me reste tout à fait étranger. Enfin, c'est-à-dire que si vous êtes né, c'est bien que votre mère fondamentale, qui n'est autre qu'Ève, séduite par un serpent que j'ai jamais vu, mais peut-être avez-vous de ces nouvelles. La Bible est une merveille. Parce que c'est si on l'apprend. C'est un énorme roman, il n'y a que des histoires absolument invraisemblables. Je crois être un des seuls écrivains français qui, alors que les anglo-saxons pratiquent ça depuis longtemps, les américains surtout, Faulkner et compagnie, à avoir lu très attentivement la Bible. Mais ce qui est un peu nouveau, c'est le fait de raconter les histoires, certaines histoires, pas toutes, qui sont d'un comique absolument irrésistible. Se moquer des livres sacrés fait partie du travail d'un écrivain. Donc la Bible, c'est parfait, et quant au Coran, je vous dis pas, ça c'est beaucoup plus ennuyeux. La Bible est beaucoup plus vivante, avec des cochonneries à n'en plus finir.
Bon, il y a un mot que vous avez utilisé à plusieurs reprises depuis le début de l'émission, c'est le mot comique, mais aussi le mot amusant. On a l'impression, en vous lisant, non seulement que vous êtes quelqu'un d'éternellement curieux, on vous imagine très bien à la vigie d'un bateau, justement en train de scruter l'horizon, mais surtout quelqu'un qui s'amuse de la vie, qui s'amuse des hommes, qui s'amuse des autres, qui s'amuse de lui-même aussi, Philippe
oui,
Solers.
Bien sûr, je me fais rire tout seul parfois, oui, absolument. Mais enfin, je trouve que nous sommes dans une époque, je vous apprends rien, de grande dépression.
Mais alors justement, il faut s'amuser face à la dévastation du monde pour reprendre l'expression que vous employez.
De crise d'identité qui vous tombe tous les matins dans l'assiette. Qui suis-je? Où suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Je ne sais plus. Et qu'est-ce que c'est que d'être français, par exemple? Vous pouvez faire des heures de télévision et de radio avec ça, et rien que ça. Et moi, je ne ressens pas du tout cette dépression, et je me fabrique mon antidépresseur tout seul.
Quelques mesures d'Antoine et Cléopâtre, les 6 épisodes symphoniques en deux suites composés en 1920 par Florent Schmitt d'après la pièce de Shakespeare. Shakespeare, l'invité permanent du nouveau, le nouveau roman de Philippe Solers paru chez Gallimard. Philippe Solers qui publie également Une conversation infinie chez Bayard avec vous, Josiane Savigno. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes aujourd'hui journaliste indépendante. Vous collaborez à la radio RCJ, au Monde des Livres. Vous avez longtemps dirigé le Monde des Livres. Vous collaborez à Lire actuellement, mais vous avez longtemps dirigé le Monde des Livres. C'est dans le cadre de cette dernière fonction de journaliste, en tant que directrice du Monde des Livres, que vous avez rencontré celui que vous appelez pas Philippe Solers, celui que vous appelez d'ailleurs Solers.
Oui, je l'avais rencontré avant, parce que je l'avais lu. Mais c'est vrai que physiquement, je l'ai rencontré surtout quand on a décidé, avec Bruno Frappa, qui était à l'époque directeur de la rédaction, qu'il allait faire un article par mois. Ça a duré pendant 18 ans, jusqu'à ce qu'il y ait des bouleversements dans ce journal, n'est-ce pas?
Oui.
Et puis, je pense que c'était bien. Du coup, il ne travaillait pas au Monde des Livres, contrairement aux calomnies qui ont été répandues qu'il aurait dirigé le Monde des Livres à ma place. Je crois que 95% des choses que je défendais dans le Monde des Livres ne l'intéressaient pas vraiment, et il ne venait pas aux réunions. Mais c'est vrai que par ailleurs, on est devenus plus proches, on a commencé à parler ensemble, pas forcément pour faire le Monde des Livres que je faisais très bien toute seule.
Mais pour refaire le monde,
pour
pas forcément celui des livres, mais pour refaire le monde.
Pour refaire le monde, peut-être. Ou pour. En fait, vous savez, moi je dis toujours que Solers devrait être remboursé par la Sécurité sociale, parce que
on parlait d'antidépresseurs tout à l'heure.
Vous faisiez cette allusion-là. Moi je suis d'une nature un peu dépressif, je dois avouer, et lui, pas du tout. Et bon, il m'a subi parfois quand j'avais des soucis au monde, justement, il m'a subi le soir en train de d'étaler mes problèmes de dépressif. Mais il arrive à balayer ça en général assez bien.
C'était une sorte de bon docteur Freud pour Josiane Savigno.
Oui, je suis jamais allée sur le divan. Je pense que c'est sans doute peut-être un tort, mais
voilà, bah peut-être pour un nouveau livre, on ne sait jamais. Alors justement, vous expliquez évidemment au début de cette conversation infinie comment ce livre est né. Vous expliquez que vous avez l'habitude de vous retrouver régulièrement, plutôt le soir,
oui, hein,
je crois, plutôt le soir, en fin d'après-midi, autour d'un verre, peut-être même de plusieurs verres, j'en sais rien, pour discuter comme ça à bâton rompu. Mais à quel moment est née justement l'idée de coucher cela sur le papier et d'en faire profiter vos lecteurs?
C'est une provocation de deux amis éditeurs qui sont Frédéric Boyer et Lydia Breda, auxquels on racontait que un homme qu'on aime bien, qui est Michel Tabachnik, le chef d'orchestre, était venu un jour à notre table, pas s'asseoir, parfois il prend un verre avec nous, mais là il était venu juste, il avait autre chose à faire, pour nous dire: mais qu'est-ce que vous pouvez bien trouver à vous raconter tous les jours? Quand on leur a raconté ça nous faisait rire, mais eux ils ont dit: bah oui, c'est vrai, pourquoi finalement vous leur racontez pas par écrit un peu ce que vous racontez tous les jours?
Alors, à quoi ça ressemble une conversation?
Vous avez l'air d'avoir une conversation. Le titre, c'est ça. Vous avez l'air d'avoir une conversation. Comme c'est étrange. Parce que vous savez que, cher monsieur, que avoir une conversation devient extrêmement rare. Vous avez des communications, que vous communiquez par texto, SMS, etc., etc. Mais avoir une conversation et avoir quelqu'un avec qui on peut parler, c'est très rare. Alors, je remercie Josiane Savigno, et en soulignant que c'est pendant ces 18 ans du monde des livres, où elle m'a laissé faire tout ce que je voulais, ou à peu près, ça a donné lieu à un recueil qui s'appelle « La guerre du goût ». Et vous voyez, avec le temps, comme tout est logique, dont je viens de recevoir la traduction en chinois. Par conséquent, tout va bien, la planète tourne, et le monde des livres, hélas, sans Savigno, ça ne veut plus dire grand-chose.
Bon, on ne va pas se lâcher avec tout Paris, hein, quand même.
Non, je ne dirais pas tout à fait ça, parce que après qu'on m'avait coupé la tête, est arrivé Franck Nouchi, avec lequel je me suis fort bien entendu, et qui a mené le monde des livres comme il devait être.
On va reprendre notre conversation.
Oui, mais après, je parle d'aujourd'hui. Oui.
Voilà, mais on va reprendre notre conversation, parce que c'est important, effectivement, le mot conversation. On parlera du mot infini dans un instant, mais le mot conversation, à quoi ça ressemble une conversation avec Philippe Solers, Josiane Savigno? Parce que dans le livre, on a l'impression que c'est extrêmement cadré, quoi, que ce sont des entretiens dirigés. C'est en plus, il y a des thèmes très précis qui se succèdent, pas dans n'importe quel ordre d'ailleurs, hein, dans le livre.
Il y avait un peu une feuille de route des éditeurs, et puis dans le livre, on a un peu, comment dire, structuré ce qu'on structure moins parfois, mais. Et puis surtout, moi, dans le livre, j'avais assez envie que Solers parle, et moi pas tellement. C'était plutôt une incitation, alors que quand on discute le soir, parfois...
Oui, c'est plus équilibré en termes de temps de parole,
oui,
c'est
ça que voilà, vous voulez dire. Oui, oui, puis parfois ça chauffe.
Ah oui, aussi. Donc là, vous vous teniez un petit peu à carreau.
Voilà, ça a chauffé un petit peu quand même. Ça a chauffé un petit peu, par exemple, sur l'histoire du fait que seules les femmes voudraient des enfants, ce à quoi je suis absolument pas d'accord, évidemment n'en ayant pas voulu, et d'autres choses. Mais c'est vrai que parfois, comme évidemment Solers est toujours assez fort dans l'argumentation, donc par exemple sur le malentendu entre les hommes et les femmes, où moi je pense qu'il y a vraiment la plupart du temps un malentendu radical, peut-être pas entre nous justement, mais lui combat ça parce qu'il pense que la séparation, c'est ce que veut le diable au fond.
Oui.
Et moi je suis un peu à court d'arguments, donc je lui dis: si vous le dites, c'est pas une très bonne manière d'argumenter.
Moins misogyne que moi, je n'en connais pas, vous dit Philippe Solers.
Ah, c'est démontrable.
Oui, vous partagez ce diagnostic, Eugène Savigno?
Il y a des documents.
Ah, il y a des preuves
qui
écrites.
Le démontrent. Bah, ah oui, indubitable.
D'abord, pour moi, un homme qui aime les femmes libres ne peut pas être misogyne. Et Solers a prouvé avec Julia Kristeva, avec laquelle il vit, et avec les amis qu'il a eus, dont moi, qu'il aimait les femmes libres. Donc, il a beaucoup d'admiration pour Simone de Beauvoir, qui est pour moi une femme libre absolue, et il la défend, il l'a défendue, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'hommes. Et puis, vous savez, j'ai deux amis qu'on a accusés de misogynie, Philippe Solers et Philippe Roth, et je pense qu'aucun des deux n'était misogyne.
Est-ce que vous le considérez comme un ami, Josiane Savigno?
C'est difficile à dire. c'est difficile à dire parce que c'était étonnant pour moi. C'est-à-dire que quand j'étais à l'université, moi je lisais Solaire, c'est tous mes amis, c'était la grande époque de Tel Quel, c'était les années 70.
La revue. Hein,
la grande époque de la revue Tel Quel. Moi, vous savez, je suis pas, j'ai pas très l'esprit très, comment dire, abstrait. Je suis pas très, j'ai pas la tête très philosophique. Grâce à Solaire, c'est à ces romans philosophiques que je progresse. Mais donc tous mes amis étaient des Tel Queliens fanatiques, et moi je disais. Ouais, peut-être, mais surtout, ce type est un grand écrivain. Mais comment? Mais comment? Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Plus jamais il n'écrira de fiction. La fiction, c'est terminé. La théorie. Alors, évidemment, quand je suis devenue journaliste et que j'ai eu l'occasion de rencontrer Philippe Solaire, c'était comme une espèce de revanche par rapport à mes petits camarades qui m'avaient un peu humilié pour n'être pas assez telle qu'elienne. Et puis, dire que cet homme pouvait devenir un ami, c'était difficile à imaginer. C'est-à-dire, quand il dit qu'on est des camarades de combat, voilà. Moi, je comprends bien pourquoi... Moi, j'avais envie d'être une camarade de combat avec lui, mais je ne sais pas trop pourquoi lui, il avait envie d'être un camarade de combat avec moi.
Ah, ben, on va lui poser la question, Philippe Solaire.
Parce que je pense que toute personne... vous comprenez, il ne s'agit pas de fonder un parti, une secte, un groupe, ou quoi que ce soit de ce genre. Je crois que toute personne issue de n'importe quelle ethnie, milieu social, etc., qui a très tôt, grâce à un sens très aigu, enfin probablement enfantin d'ailleurs, qui a très tôt la sensation que la société en tant que telle, pas telle ou telle société, pas tel ou tel régime, mais en tant qu'il y a société, l'empêche d'être libre, devient, parce que j'en ai eu la sensation très radicale et très tôt, devient un camarade de combat. C'est-à-dire qu'on ne combat pas du tout pour un idéal utopique, pour un nous futur, pour une revanche groupée. On se bat pour préserver sa liberté. Moi, je crois que c'est ça qui a dirigé absolument toute ma vie. Et il me semble, enfin j'en suis sûr même, que la liberté de Josiane Savigno, c'est pour ça que je lui propose ce terme d'amitié de combat, elle s'est battue pour sa liberté et ça lui a coûté très cher. Il faut savoir ce que ça coûte, la liberté.
Mais un combat contre, je vous cite, hein, Philippe Solaire, contre le mensonge organisé par la société.
Oui, monsieur.
Un mensonge social.
Oui, la société qui a été très bien définie par un des grands acteurs de 1968, c'est Guy Debord auquel je pense, c'est-à-dire la société du spectacle. Elle était en train de s'imposer massivement, planétairement, etc. Donc là, vous savez plus à quel point c'est incessant. Voilà, vous êtes immergé complètement.
On ne s'en rend plus compte aujourd'hui.
Vous vous rendez plus compte. Vous êtes dans le monde de l'image, dans le monde de la publicité générale. Sans arrêt, vous écoutez ce qui tombe en ce moment comme argent publicité.
Alors, je vais sortir un poncif, ça va peut-être vous énerver.
Non,
Philippe Solaire, mais quoi?
Non.
C'était mieux avant?
Non, c'était pas mieux avant. Ça n'a jamais été mieux. Sauf peut-être dans des périodes plus calmes de l'histoire. Enfin bon, mais enfin franchement, le XXe siècle, il n'y a pas beaucoup de régions calmes. Mais c'est pas mieux. C'est qui est nécessaire aujourd'hui. C'est pour chaque camarade de combat ou quelqu'un qui veut rester. Ça veut dire rester libre, quoi qu'il arrive. Et franchement, je crois que j'y ai réussi. Personne ne me dit ce que je dois écrire. Personne ne contrôle ce que je vais écrire. Et ça peut continuer comme ça, ce qui est quand même remarquable.
Sur mon lit, pendant les nuits, j'ai cherché celui que j'aime, moi. Je l'ai cherché. Je ne l'ai pas trouvé. Je vais me lever, je vais tourner dans la ville. Dans les rues, sur les places, je vais chercher celui que j'aime, moi. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ce sont les gardes qui l'ont trouvé, ceux qui tournent dans la ville. Avez-vous vu celui que j'aime, moi? Je les croise et je le trouve. Celui que j'aime, moi, je le tiens, je ne lâcherai plus. Jusqu'à le faire entrer dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a faite. Par gazelle et biche des champs, je vous prie, fille de Jérusalem, ne réveillez pas amour, avant envie.
Qui est celle qui monte du désert en colonne de fumée, brûlante de myrrhe et d'encens, avec tous les parfums des marchands? Voilà la litière de Salomon. 60 braves l'entourent, parmi les braves d'Israël, tous avec une épée, experts au combat. Chacun l'épée au côté la nuit en cas d'alerte. Le roi Salomon se fait un palanquin avec des arbres de Liban. Colonne d'argent, dés en or, siège pourpre. Intérieur marqueté avec amour. Celui des filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion. Regardez le roi Salomon avec sa couronne. La couronne posée par sa mère.
Alain Bachung et Chloé Mons sur RFI, un extrait de leur version du Cantique des Cantiques, ce chant d'amour plus fort que la mort auquel vous faites à plusieurs reprises référence, Philippe Solers, dans cette conversation infinie avec Josiane Savigno, que vous publiez tous les deux chez Bayard. L'amour, Josiane Savigno, c'est le premier grand thème sur lequel vous penchez. Et là, on tombe de sa chaise, parce qu'on lit quand même Philippe Solers dire cette phrase incroyable dans sa bouche. L'amour n'est pas vraiment romanesque. Il est sérieux quand il dit ça, Josiane Savigno ?
Je crois qu'il pense que c'est la poésie est plus proche de la manière de parler d'amour que le romanesque. J'ai l'impression que il y a un fameux roman d'amour qu'il n'aime pas et que je n'aime pas non plus, qui s'appelle Belle du Seigneur.
Voilà.
Et donc on n'aime pas.
Vous vous rejoignez là-dessus,
on
n'aime
pas tellement ce genre de choses.
Oui, il ne parle que d'amour dans ses romans. Vous n'allez pas me dire le contraire.
Oui, mais je crois que. Quand il dit l'amour n'est pas romanesque, qu'il pense que la plupart, on peut parler d'amour dans les romans, mais que faire des romans d'amour, ça va pas droit au but comme la poésie d'amour, c'est ça. Enfin, je sais pas, je vais pas parler
Solers.
À sa place. Hein.
L'amour est quelque chose qui devrait se taire beaucoup pour être réel et vrai. Et donc, on vit dans un tel bavardage universel que vous avez le mot amour est lui-même devenu presque inemployable. C'est l'amour, c'est la sensation de l'infini à la portée des caniches, comme dit Céline. Donc, on devrait avoir honte de parler encore d'amour. Eh bien, je crois que quand même, il faut reprendre le mot pour essayer de voir ce qui subsiste. Et ce qui subsiste, c'est en effet, là, je me réfère en général à Dante. Qui est mon poète avec Shakespeare et d'autres, quand même, que je peux relire sans arrêt. Hein, Dante, membre des fidèles d'amour, des fidèles d'amour, et l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Enfin, il fallait y croire beaucoup. Ça paraît complètement déraisonnable, et c'est ça qui me plaît, c'est que ça le soit. Donc l'amour, c'est quelque chose qui peut se produire entre deux êtres humains, qui partagent, je crois, la gratuité de leur enfance. C'est-à-dire qu'il y aura un sens aigu de ce qui va devenir ensuite pour eux l'obstacle social, c'est-à-dire quelque chose qui doit devenir rentable, punissable, évaluable, alors que l'enfance, comme vous le savez vous-même, est d'une gratuité absolument totale.
Mais c'est vrai que le mot gratuit revient très très souvent dans la conversation.
Oui. Alors si l'amour n'est pas gratuit, c'est pas de l'amour.
Voilà. D'ailleurs, vous connaissez évidemment Philippe Solers, la phrase de François Mitterrand pendant le discours d'Épinay, hein. L'argent qui corrompt, l'argent qui achète, l'argent qui écrase, l'argent qui tue, l'argent qui ruine, l'argent qui pourrit. Vous reprendriez ces mots à votre compte ?
C'était une sorte d'autoportrait, alors, de la part du président.
Mais quelle mauvaise langue !
Non, mais là, on arrive à une énorme, énorme divergence entre Philippe Solers et moi.
Bah oui.
J'ai une admiration profonde pour François Mitterrand, notamment parce qu'il a aboli la peine de mort, ça je ne l'oublierai jamais. Et puis que je trouve que, même s'il était en effet plus attaché à son destin, probablement personnel, qu'à des grandes idées de gauche, je le trouve plus romanesque que les petits personnages actuels. Donc je suis toujours très admiratif de François Mitterrand.
Peut-être de son érudition hein, aussi. où j'avais une édition littéraire, même si c'est pas forcément les auteurs que vous préférez.
Pas tout à fait les mêmes goûts que lui. Je préfère Morand à Chardonne, si on parle de ce côté un peu. Mais enfin, bon, ça c'est une grande divergence entre Philippe Sauvage. C'est moi une autre qui, j'allais dire, est peut-être liée, c'est que moi je suis incurablement de gauche et ça le fait rire, ça le fait bien rire.
Et pourtant, Philippe Sauvage, vous dites pas forcément des choses très différentes de ce que disait Mitterrand à Épinay en 71. Vous dites l'argent. C'est dans le nouveau, ça. L'argent, c'est la divinité manifestée, la transformation de toutes les qualités humaines et naturelles en leur contraire, la prostituée universelle. Oui, on est donc dans l'argent qui corrompt, l'argent qui salit, l'argent qui pourrit.
Sauf que c'est pas la même chose. Si c'est François Mitterrand...
Mais c'était pas un homme d'argent, en plus. C'est pas vrai.
Qui était quand même... voilà ce qu'il était. Qui s'exprime. Ou bien, je le cite, je crois, exactement à ce moment-là, c'est Karl Marx.
Absolument. Et
Karl Marx a une dimension...
Ce qui est une forme de provocation suprême. Hein.
Je n'ai jamais pu... si j'avais pu lui parler, je ne pense pas que nous aurions pu avoir, François Mitterrand et moi, à supposer que nous ayons pu avoir une conversation, qui a eu lieu d'ailleurs, mais sur d'autres thèmes. Je vais vous dire sur quoi qu'on aurait pu parler de Karl Marx. En revanche, la première fois où j'ai eu une conversation très étrange avec François Mitterrand, c'était sur un canapé chez Gallimard, enfin avant un déjeuner chez Gallimard, et là, il était extraordinairement intéressé par Casanova. Vous savez, Venise...
Comme c'est étonnant.
Comme c'est curieux. Alors, et bienvenue. Il me dit, j'adore Casanova. Ah, mais je dis, bienvenue au club, cher monsieur. Ah, très bien. Ah oui, alors. Ah, il arrive, il dit, ah, voilà le terrible monsieur. Ah, comment? Ah, voilà le terrible monsieur Solers. Ah, est-ce que vous faites attention à votre santé? J'ai cru qu'il allait m'offrir des préservatifs. Voyez, je suis très terre à terre là-dessus.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Toujours avec Philippe Sauvage pour son roman Le Nouveau qui vient de sortir chez Gallimard et Josiane Savigno qui publie avec lui Une conversation infinie. Fait Bayard, alors ce mot infini, c'est un mot qui est vraiment très très cher à Sauvage, Josiane Savigno. Il a appelé sa revue et sa collection l'infini. Est-ce que vous avez compris pourquoi ce mot est si important pour
vous? Ça, c'est plutôt à lui qu'il faut le demander.
Ça m'intéresse de voir votre regard à vous, eu égard justement aux conversations, eu égard aussi aux livres vous ont accompagné.
Je crois que, bon, d'abord, Sauvage, ça a le sens des titres. Alors, c'est lui qui trouve toujours les titres, à la fois de ses romans, et c'est lui qui a trouvé le titre « Conversation infinie ». Mais c'est vrai que c'est une conversation mais qui n'a pas de fin, c'est vrai, Tout à l'heure, on va recommencer. Alors on échange des choses, on a des divergences, il y a des choses dont on n'a pas parlé dans le livre parce que bon, c'est des tartes à la crème, je veux dire, et Philippe Sauvage est né dans la grande bourgeoisie, pas moi, donc j'ai pas le même rapport à ce qu'on appelle l'école républicaine. Mais lui, bon, néglige assez ça le fait un peu rire parce qu'il y avait chez lui une bibliothèque où on pouvait aller se nourrir. Moi, je pense que l'école m'a apporté beaucoup de choses, mais plus encore, je pense que la lecture de Simone de Beauvoir m'a plus formé que les professeurs qui m'enseignaient des choses.
Oui, alors, sur l'infini, elle n'a pas vraiment répondu, Josiane Savigno, donc effectivement, je vais vous poser la question à vous, Philippe Sauvage, et je vais rajouter peut-être un petit élément dans la question. C'est un verbe dont j'ignorais l'existence et que vous aimez bien, c'est le verbe « toujouriser », hein, un verbe inventé par Dante dans la Divine Comédie qu'on évoquait il y a quelques secondes. « Toujouriser », est-ce que ce pourrait être votre devise?
Oui, je crois que c'est une formule qui évoque ce que Dante perçoit au paradis. On oublie toujours que c'est, on en fait l'écrivain de l'enfer. Enfin, les gens ont peur du paradis. C'est curieux. Oui. Pour l'infini, vous savez, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est que l'infini? C'est la négation de la négation. Comme ça, vous obtenez l'infini. Par conséquent, il faut être expert en négation si vous voulez avoir une petite idée de ce que, avec Hegel, si vous voulez, pour le citer, que lui, il faut avoir une perception intense de la négation ou du néant, si vous préférez, pour nier ce qui peut l'être et retrouver quelque chose qui n'est plus fini. Donc, la vie n'a pas de fin à partir de là.
Alors quand on parle d'infini, Dieu n'est pas loin. Vous lui consacrez évidemment quelques pages dans ce livre. Un peu plus loin, vous évoquez
l'ancien Dieu,
le diable. Et ce qui est assez drôle, c'est que entre le chapitre Dieu et le chapitre sur le diable, il y a le chapitre sur la fidélité. Alors, auquel des deux va votre fidélité, Philippe Solers, au diable ou
aucun,
à Dieu?
Aucun, je ne suis ni pour Dieu ni pour le diable. Je considère que tout ça est ancien et que ça continue à pourrir sur place un peu partout. Hein, voilà. Et ça, on n'en est pas débarrassé. Mais je pense quand même que la pensée peut aller plus loin que fausses représentations qui donnent lieu à des religions qui d'ailleurs s'écroulent les unes après les autres. Si vous croyez que ça me fait plaisir ou marrer que l'Église catholique se retrouve dans cet état, pas vraiment, parce que ça a été quand même une grande histoire avec beaucoup de choses. En Italie, par exemple, et voir où ils en sont, les pauvres. Oui, en France, surtout.
D'ailleurs, vous dites, hein, je suis catholique, mais le mot chrétien, par contre, pose un petit problème. Oui, hein. C'est étonnant, ça, c'est la résurrection qui...
Chrétien, ça veut dire que je ne suis pas protestant, si vous préférez. Oui.
Voilà. Voilà. Oui.
C'est plutôt ça que ça veut dire. Il y a beaucoup de protestants. Hein. Bon, je ne vous l'apprends pas. Divisés, d'ailleurs, en des sectes innombrables. Mais c'est l'Italie, vous comprenez. C'est la musique, c'est la peinture, c'est l'architecture, c'est Michel-Ange. Enfin, voilà, je ne vais pas faire du tourisme en Italie. Moi, je vis l'Italie d'une façon extrême. Profonde. D'où Dante, d'où la Divine Comédie, d'où tout ça.
D'où Casanova aussi.
Et Casanova est parfaitement catholique. J'ai vécu en philosophe et je meurs en chrétien, a-t-il dit, pour s'amuser quand même. Vous voyez, l'abusement revient toujours. Ouais,
et vous faites le lien dans cette conversation infinie, Philippe Solers, entre le catholicisme et la gloire, hein, gloire à Dieu, etc. Je voudrais savoir comment vous, Vezin Savigno, percevez justement la vision de gloire de Philippe Solers. Est-ce qu'il recherche la gloire?
Mais la gloire, non, justement pas la
non,
gloire.
C'est la gloire qui me choisit.
Elle vous poursuit.
Oui, mais il faut s'entendre sur le mot gloire. Moi, j'ai voulu...
La gloire, je plais à la gloire.
Quand j'ai voulu faire cette conversation sur la gloire, en fait, je confondais un peu la gloire et la célébrité. C'est et lui a voulu déplacer la conversation. Mais puisqu'on va terminer, je voudrais qu'on dise quelque chose sur... Parce que vous avez parlé du chapitre sur l'amour.
Oui.
Et le chapitre sur l'amour, il est appuyé sur une histoire d'amour entre Philippe Solers. C'est une femme que j'ai beaucoup aimée, donc j'aime bien parler d'elle.
Allez-y.
Et qui s'appelle Dominique Rollin, qui était romancière, pas assez reconnue, qui était une femme absolument magnifique, qui avait cette devise merveilleuse, cruauté bien ordonnée commence par soi-même. Je pense qu'il faut se l'appliquer de temps en temps. Et leur histoire, dont maintenant on peut saisir un peu plus de choses, puisqu'ils ont publié chacun un volume de correspondance. Enfin, Dominique Rollin est morte, malheureusement. Et c'est une histoire magnifique. Et ce chapitre sur l'amour, il est aussi appuyé là-dessus.
Vous dites dans le nouveau Philippe Solers qu'une rose sera sculptée sur votre dalle funéraire.
Elle est prête.
Elle est prête. Pourquoi une rose?
Ah, c'est la rose, ça la rose du présent, la rose de la raison, pardon. Ça c'est une formule de Hegel, un philosophe énorme. La rose de la raison dans la croix du présent. Bon, vous voyez ça, la rose. Donc, si vous êtes sensible au rapprochement des deux mots, rose et croix, vous m'entendez très bien. Voilà, je crois. Bon, pour revenir à la gloire, pour moi, ça se dit dans des musiques magnifiques de Monteverdi, par exemple. Je vous le récite, il faut dire « Gloria patri et filio et spiritui sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. »
Amen. Merci beaucoup à tous les deux, Philippe Solers et Josiane Savigno. Le nouveau chez Gallimard, une conversation infinie aux éditions Bayard. À demain, on va parler de l'école publique, justement, avec le cinéaste Michel Leclerc pour son nouveau film La lutte des classes, qui sera sur les écrans mercredi prochain. Et vous m'en direz des nouvelles.